Vous écoutez Radio France Internationale, il est 3h ici à Paris, 1h en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de ce journal, à Gazaville, une frappe israélienne sur un des derniers hôpitaux encore opérationnels coûte la vie à un enfant, rapporte l'OMS. L'armée israélienne assure avoir visé un centre de commandement du Hamas. À Gaza, toujours 2 semaines après la découverte d'une fosse commune avec une dizaine de cadavres de secouristes, le Croissant Rouge palestinien affirme qu'Israël détient encore un de leurs ambulanciers. Guerre civile au Soudan, week-end meurtrier au Darfour, alors que les FSR tentent de renforcer leur emprise dans la région. Et c'est un rappel brutal d'un besoin de négocier une trêve. Première réaction de la Maison-Blanche après la frappe russe qui a fait 34 morts en Ukraine. Une parlementaire britannique se voit refuser l'entrée à Hong Kong. Aucune explication n'a été fournie par les autorités. À Gaza, au moins un enfant est mort à cause de l'interruption des soins après le bombardement d'un hôpital par l'armée israélienne. Information de l'Organisation mondiale de la santé qui affirme que le service des urgences, un laboratoire et la pharmacie de l'hôpital Al-Ali ont été détruits à Gazaville. L'État hébreu assure avoir ciblé un centre de commandement du Hamas, une version démentie par le mouvement islamiste. Le personnel de l'établissement aurait reçu l'ordre d'évacuer par téléphone quelques minutes avant l'attaque. Toujours à Gaza, c'était une découverte macabre qui avait choqué à l'international, celle d'une fosse commune dans laquelle ont été retrouvés les corps de 14 secouristes palestiniens et d'un employé des Nations Unies. Aujourd'hui, le Croissant Rouge affirme avoir retrouvé la trace d'un autre secouriste qui était porté disparu jusqu'ici. Il est aux mains des Israéliens, dit l'organisation, sans apporter plus de détails. À Ramallah, le compte-rendu d'Amira Swilem.
Son nom était scandé à chacune des prises de parole du Croissant Rouge palestinien ces derniers jours. Assad el-Nassasra est vivant. Le secouriste palestinien, père de 6 enfants, a été enlevé de force alors qu'il accomplissait ses missions humanitaires, dit le Croissant Rouge dans un message posté sur les réseaux sociaux. Assad el-Nassasra faisait partie des secouristes du Croissant Rouge et de la défense civile de Gaza, ciblée par l'armée israélienne le dimanche 23 mars dernier. Les deux équipes étaient en route vers une zone bombardée en banlieue de Rafah quand elles ont été prises sous le feu nourri de l'armée israélienne. Celle-ci avait affirmé les avoir ciblées parce que roulant de façon jugée suspecte, tout faisait éteint. Une version ensuite démentie par la découverte d'une vidéo tournée par l'un des secouristes palestiniens avant sa mort. Le Croissant Rouge palestinien a demandé aujourd'hui la libération immédiate d'Assad el-Nassasra. Au-delà d'un confrère, c'est aussi un témoin clé du drame, encore vivant, que l'organisation espère retrouver. L'armée israélienne, qui avait accusé sans apporter de preuves à ce stade que 6 des secouristes tués étaient affiliés au Hamas, avait annoncé lancer une enquête approfondie. Amira Swilem, Ramallah, RFI.
Un rappel brutal d'un besoin de négocier une trêve. C'est ainsi que la Maison-Blanche décrit la frappe russe qui a fait 34 morts et une centaine de blessés en Ukraine. Cette attaque contre des civils survenue au cœur de la ville de Soumy est la plus meurtrière depuis le début des tentatives de pourparlers de paix orchestrées par Washington. Dans une interview à la télévision américaine, le président ukrainien a invité Donald Trump à venir voir les dégâts de ses propres yeux. Avant tout dialogue, avant toute décision, venez voir les morts et la destruction, a déclaré Volodymyr Zelensky. Au Soudan, regain de violence ce week-end dans la région du Darfour. Selon des sources humanitaires locales, au moins une centaine de civils auraient été tués dans une série d'attaques. L'offensive est attribuée aux forces paramilitaires du général Emeti. Ils tentent de consolider leur emprise au Darfour depuis qu'ils ont perdu la capitale face à l'armée soudanaise. Principale cible, le camp de déplacés de Zamzam qui abrite au moins 500 000 personnes. Les FSR affirment en avoir pris le contrôle, ce qu'aucune source indépendante n'a pu confirmer. Les explications de Florence Maurice.
Le camp de Zamzam est régulièrement le théâtre d'attaques dans cette guerre, mais depuis vendredi, la violence s'est intensifiée. De sources humanitaires, les paramilitaires ont d'abord bombardé plusieurs heures le site avant de franchir le périmètre du camp par voie terrestre pour lancer un assaut. Parmi les civils tués, 9 travailleurs humanitaires employés de la dernière clinique médicale qui était encore en activité sur le site. Ils ont été abattus, déplore un responsable de l'ONG qui les employait. Selon cette source, des centaines d'abris de fortune ainsi que le principal marché du camp ont également été détruits. alors que Zamzam est déjà déclarée en famine, en raison notamment du blocus instauré par les FSR qui assiège la ville d'El Fasher. Le bilan total est difficile à évaluer, tout comme la situation exacte sur place ce dimanche soir, car les moyens de communication sont très limités. Samedi, des vidéos montrant des civils tués à Zamzam ont été diffusées par des activistes. Dans un communiqué en réaction, les forces de soutien rapide ont dénoncé une mise en scène, une tentative, je cite, de les criminaliser.
Florence Maurice. Au Gabon, le général Brice Clotaire-Oligui Nguema est proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Le chef de la transition, au pouvoir depuis un putsch en 2023, a récolté plus de 90% des voix, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Il entame donc un mandat présidentiel de 7 ans, tel que prévu par la nouvelle constitution gabonaise. En Équateur, le dépouillement est toujours en cours. Quelques 13 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Avec 45% des bulletins de vote ouverts, les résultats préliminaires donnent le président sortant Daniel Noboa en tête devant la candidate du parti de gauche Luisa González. L'élection s'annonce tout de même serrée dans un pays miné par les violences liées au narcotrafic. Une semaine après qu'Israël ait refusé de laisser entrer deux députés britanniques sur son territoire, c'est au tour de Hong Kong d'expulser une parlementaire. Jeudi, Wera Hobhouse a été refoulée aux frontières de ce que la Chine qualifie maintenant de région administrative spéciale, Hong Kong donc. La députée libérale-démocrate a dû regagner le Royaume-Uni sans explication de la part des autorités. À Londres, le compte-rendu d'Emeline Vain.
À son arrivée à l'aéroport de Hong Kong jeudi dernier, Wera Hobhouse a été interpellée, interrogée puis renvoyée vers le Royaume-Uni alors qu'elle venait, accompagnée de son mari, rendre visite à leur fils, résident hongkongais qui vient de devenir papa. La députée libérale-démocrate raconte dans une interview au Sunday Times que ses bagages ont été fouillés et que les autorités de Hong Kong ont refusé de lui fournir une explication. Bien qu'il s'agisse d'une visite à caractère personnel, Wera Hobhouse dénonce une insulte à tous les députés. L'élu appartient en effet à l'Alliance interparlementaire sur la Chine, un groupe international de surveillance des atteintes aux droits humains par Pékin, et elle a plusieurs fois exprimé son inquiétude quant aux restrictions des libertés à Hong Kong et au Tibet. Le ministère britannique des Affaires étrangères voit un lien entre ses positions et le traitement de Wera Hobhouse. Il serait inacceptable qu'une députée soit interdite d'entrer simplement pour ses opinions, a indiqué David Lamy. Le chef de la diplomatie promet d'évoquer urgemment la question avec la Chine et avec Hong Kong. Emeline Van Londres, RFI.
Pris dans la tourmente de la guerre commerciale, le président chinois Xi Jinping entame lundi une tournée en Asie du Sud-Est. Direction d'abord le Vietnam avant de poursuivre avec la Malaisie et le Cambodge. Objectif, trouver des alliés régionaux pour faire front commun face aux menaces tarifaires des États-Unis. Washington a imposé des droits de douane de 145% à Pékin, qui a riposté avec des tarifs de 125%. Une situation que déplore Xi Jinping. Le protectionnisme ne mène nulle part, vient de déclarer le président chinois. Ce dimanche avait lieu la dernière vente aux enchères de Paris 2024. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui sera dissous en juin, se séparait de 200 objets cultes, des torches olympiques, mais aussi plusieurs pièces de costumes de la cérémonie d'ouverture. Le reportage à la maison Vermeaux et Associés de Solène Ravenel.
Cette belle torche Paris 2024, je les ai jugées à 2500. Une fois, 2500, deux fois et trois fois, c'est bien vu. Elle est jugée à 2500.
Nathalie Vermeaux, commissaire priseur et l'organisatrice de cette vente aux enchères en partenariat avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques.
Vous avez les robes de Marie-Antoinette qui étaient sur la chaussée du palais de la conciergerie.
Ça, c'est le costume de Philippe Catherine.
C'est sa couronne de fleurs et la cloche sous laquelle il était caché sur la passerelle.
Margot est venue avec sa maman Isabelle. Elles étaient à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et même sans rien acheter aujourd'hui, elles sont heureuses de revoir les costumes de la soirée.
Et là, c'est Philippe Catherine.
Ouais.
Oh, pas... Bah oui, mais tu te souviens de quoi de Philippe Catherine?
Moyen.
Ah, aussi, ce que je m'en souviens, Marie-Antoinette aussi.
Bah, c'est passé là, chérie.
Bah oui.
Les costumes sont passés, ils sont partis chers. Non, mais c'est bien, les enchères s'envolent, c'est vrai qu'il y a de l'intérêt pour les. Pour la cérémonie des JO, et ce qui est plutôt rassurant parce qu'il y a tellement de critiques que ça fait du bien de voir que ça s'envole.
Et la fameuse couronne de fleurs portée par Philippe Catherine a été vendue à 6 500 €, des bénéfices qui seront reversés à des associations.
Et c'est sur ce reportage de Solène Ravenel que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi.